Bonjour, messieurs et dames, et bienvenue à notre rendez-vous économique du week-end. Panorama économique revient cette semaine sur la vente par la minière de Bakwanga de 20 000 carats de diamants. Cette vente a permis à l'entreprise d'encaisser près de 550 000 dollars. Goutte d'eau dans l'océan ou exploit, nous y reviendrons dans cette rétrospective. Et puis les lignes aériennes congolaises LAC, Ex, Air Zaïr ont fêté cette semaine leurs 50 ans d'âge. Occasion pour cette entreprise de faire un bilan de son demi-siècle de vie. Bilan qui s'est avéré plutôt malheureux, nous en reparlerons également. Et dans le panorama économique de cette semaine aussi, la télé de deux jours organisée à Kinshasa par le projet Catalyst de la coopération néerlandaise en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo sur la sécurité alimentaire. Ce sera donc le reportage de la semaine. Michel Somoué, qui n'est plus à présenter, est notre invité. Il est président de la FENAPEC, Fédération nationale des petites et moyennes entreprises. Et c'est avec lui que nous passerons cette demi-heure pour analyser et commenter l'actualité économique. Bonjour, Monsieur Somoué.
Bonjour, Kat. Permettez-moi de corriger rapidement. Je suis pas président de la FENAPEC, je suis administrateur de la FENAPEC.
Merci. Également dans ce studio pour présenter cette émission, Nadine Foulard, notre consoeur. Bonjour, Nadine.
Bonjour, Annette.
Chers auditeurs, merci de nous suivre.
Panorama économique, le dossier.
Premier dossier, la société minière de Bakwanga a procédé ce lundi à la vente de 20 000 carats de diamants.
L'opération a eu lieu dans les installations de la MIBA en Bushman, en présence de représentants de services publics compétents. Ce sont les acheteurs locaux qui ont gagné le marché pour la quatrième fois depuis mars 2011. Le comité de gestion de la MIBA se félicite de cette opération qui estime favoriser la relance de l'entreprise. C'est l'essentiel du dossier réalisé cette semaine par notre confrère Emmanuel Elani.
Qui sont les principaux gagnants de ce marché?
Rappelons d'abord qu'il y a eu 6 comptoirs locaux, dont 4 ont souscrit pour les colis de 18 000 carats et 2 autres pour les colis de 2 000 carats. Au finish, ce sont les bureaux KB SRL et le comptoir Spada qui ont arraché le gros du morceau et ont fourni, donc, comme je le disais tout à l'heure, plus de 550 000 dollars.
Mais Emmanuel, une question. On se rappellera qu'à une certaine époque, la MIBA arrivait à écouler des millions de carats de diamants. Si on compare avec cette dernière vente de 20 000 carats de diamants, c'est presque insignifiant, sinon une goutte d'eau dans l'océan.
Je peux répondre par oui et non, Agathe. Oui, parce que quand on compare cette période-là, la grande minière de Bakwanga que l'on a connue, c'est celle-là qui vendait des diamants à des millions et des millions de dollars. C'était la belle époque de production avec autant de machines. La MIBA employait près de 5 000 travailleurs. Mais aujourd'hui, tout le monde a commencé à parler du déficit de l'entreprise. La MIBA se trouve au plus bas niveau. Elle a passé même 2 ans d'improductivité. Mais cette forme de relance aujourd'hui se fait pratiquement sans outil de travail. Mm-hmm. Il y a même ceux qui parlent des miracles opérés par ces comités de gestion pour avoir même ces 20 000 carats qu'on a vendus aujourd'hui. Donc ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan, mais un exploit pour ces comités de gestion actuels.
Voilà, Michel Somoué, vous êtes avec nous dans ce studio pour commenter l'actualité économique. Vous avez suivi avec attention ce premier dossier. Pensez-vous, comme le comité de gestion, qu'il s'agit là d'un exploit?
Non, ce n'est pas du tout un exploit. Agathe, vous avez bien dit la chose, même dans la question que vous avez posée tout à l'heure à notre ami. La MIBA, pour prendre un chiffre à peu près, en 1990, déjà, la MIBA produisait 10 millions de carats de diamants, et quand vous approchez plus il y a des années à la veille de la décennie qui est la nôtre maintenant, en 1999 pour être précis, la MIBA avait réalisé comme c'est une exploitation près de 90 millions de dollars de production de diamants en termes de produire des millions de carats de diamants, voilà ce que j'ai dit. Mais je pense que on devrait être juste à l'égard de la MIBA, à l'égard de la province. Parce que quand vous regardez les choses telles qu'elles sont en train d'évoluer, l'État a une lourde responsabilité vis-à-vis de cette société. Parce que ça procède soit de l'ignorance, soit d'un complot, soit de l'amateurisme. Quand vous vous rendez compte qu'au moment où, en 1999, la MIBA commençait à faire des exploits, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des exploits, c'est à ce moment-là qu'on décide de démanteler la MIBA pour attribuer une part importante de ces titres à une société qu'on invente, Saint-Gamine. C'est bien pour ruiner en réalité une économie nationale, une économie provinciale. Pourquoi on l'a fait ? Personne ne peut donner des réponses précises.
Mais bon, là, c'est peut-être le passé. Maintenant, il y a, on dirait, un nouveau vent qui veut souffler. Il y a eu un appui du gouvernement. On veut redémarrer les choses. Actuellement, la MIBA que vous, dont vous parlez, celle d'aujourd'hui n'a plus les mêmes outils que celle-là d'avant. Mais elle, les comités de gestion de M. Ovian essayent quand même, tant soit peu, de repartir de zéro à quelque chose.
Si vous ne pensez pas les plaies du passé, vous construisez en vain, vous allez construire sur du sable mouvant. Vous allez avoir l'impression que la rivière est en train de faire des espoirs. Si vous ignorez son passé, vous risquez de vous contenter de choses tout à fait médiocres. Moi, je pense qu'il faut un effort de la part du gouvernement, un effort de bonne foi, une décision de justice, j'allais dire d'équité, qui doit commencer par, non pas simplement réhabiliter la MIBA, mais je crois que l'État doit réparer ces bévues à l'égard d'une société si stratégique pour toute une province et pour des millions de populations. Et cet effort de bonne foi appelle simplement quelques millions de dollars qu'il faut réinvestir. La MIBA vous dit qu'il lui faut 200 millions de dollars pour décoller. Il faut que l'État soit de bonne foi pour que sur un budget de 7, 8, 10 milliards de dollars, qu'on paye à la MIBA, qu'on mette à disposition de la MIBA des moyens qu'il faut pour réhabiliter son outil de production et qu'on remette la MIBA dans ses titres, en lui restituant ses titres miniers, pour que la production de la MIBA reprenne de façon efficace et non pas de cette façon presque gabésiste. C'est l'impression que ça, ce sont des miettes et on ne doit pas se réjouir de la poudre aux yeux de ces miettes qu'on jette par ces
barrages. Le temps pour nous de venir à ce deuxième dossier de la semaine, 29 juin 1961, 29 juin 2011, 50 ans que les lignes aériennes congolaises existent.
Dans son discours des circonstances lors des manifestations commémoratives, la DGAI de l'ex-Air a fait état d'une crise multiforme qui connaît l'entreprise, notamment du point de vue de la flotte, des infrastructures, des finances et des ressources humaines, avec une dette qui s'élève à 140 millions de dollars, des créances certifiées de l'État qui s'élèvent à plus de 22 millions et 200 mois d'arriérés de salaire et 75% des agents et cadres éligibles à la retraite, une flotte composée d'un seul avion Boeing 737 qui du reste est cloué au sol. Toutefois, le comité de gestion en place affirme s'activer à nouer différents partenariats économiques pour tenter de stabiliser la situation, mais selon Chérubin Entombé, un appui institutionnel s'avère plus que nécessaire.
Voilà, Michel Sommoué, vous êtes toujours avec nous dans ce studio, encore une entreprise de l'État qui apparemment a été abattue par son propriétaire.
Et encore un cynisme de l'État, il faut le dire. Vous savez, la compagnie nationale d'aviation, on l'appelait d'ailleurs à l'époque, qui est devenue là aujourd'hui, ne manquait pas de flotte, ne manquait pas d'avions. Mais une bonne partie de ces avions ont été attribués comme ça, de façon, je ne sais pas, prémisueuse, à un opérateur privé. Et aujourd'hui, je me dis, par acquis de conscience, je me demande s'il est plus pertinent, plus opportun, que le chef de l'État dispose d'un jet privé pendant que la compagnie nationale n'a aucun appareil pour voler. Et je ne connais pas dans le monde un pays, un État, une nation qui est privée d'une compagnie d'aviation nationale. Et même quand, on dirait, dans des pays à économie de marché le plus avancé, à tout le moins l'État est actionnaire important dans certaines de ces compagnies d'aviation. Aujourd'hui, le Congo est privé. Et vous savez que le système de transport est un système de souveraineté d'un État. Parce qu'à travers le mécanisme de transport, vous assurez aussi la protection de votre souveraineté. Si aujourd'hui, les opérateurs du secteur aérien sont exclusivement des étrangers, je crois que quelque part, on trahit aussi la souveraineté de la nation.
Et vous pensez que la situation de l'ARC aujourd'hui est question, peut-être résolue par, un meilleur management, une meilleure politique. Qu'est-ce qui pourrait redonner espoir aux travailleurs de l'ARC qu'un jour, ce léopard volant, comme eux-mêmes l'appellent, renaîtra de ses cendres?
C'est une question du contenu que nous tous nous donnons au concept de république, c'est-à-dire la chose publique, la res publica. Et je pense que par rapport à ça, c'est la seule chose, la seule façon pour donner de l'espérance à ces nombreux Congolais qui ont 200 mois d'impayement, c'est catastrophique, ça n'existe nulle part dans l'histoire de l'humanité, c'est que nous puissions parvenir à accepter tous la nécessité de la refondation de l'État. parce que si nous ne répondons pas à notre État en le moralisant, en mettant l'accent sur ce qui s'appelle la chose publique, la res publica, alors nous sommes partis pour l'avoir, l'État sera lui-même tout entièrement privatisé au service des intérêts égoïstes de quelques individus qui occupent malheureusement des institutions publiques.
Et une entreprise qui affiche un tel bilan, faudrait-il pas mieux la liquider?
On peut la liquider, la reliquider, la liquider une quatrième et cinquième fois encore tant qu'on a créé, toujours parce que les besoins seront à l'autre sens. La nation aura toujours besoin d'une compagnie nationale d'aviation. Et tant qu'on n'a pas corrigé la nature de notre État, nous aurons toujours un État propriétaire, mais un État assassin de ces entreprises et de ces enfants. C'est ça le problème. Du point de vue de la comptabilité, du point de vue des finances, la mérite d'être liquidée, c'est une réalité, mais il faut refonder une nouvelle compagnie d'aviation nationale sur les cendres de cette liberté liquidée, avec les meilleures institutions et les meilleurs hommes.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité économique de la semaine, en plus bref, à Kinshasa, environ 50 millions de dollars sont nécessaires à la réhabilitation de l'usine de traitement d'eau potable de Ngalima et à la construction d'une nouvelle expansion dans une durée de 2 ans.
Le projet est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. Il s'agit d'un don pour des travaux prévus au mois de juillet en cours. Lundi dernier, le ministre de l'Énergie et le comité de gestion de la régie des eaux ont visité le site pour faire l'état des lieux. Selon le chef de la maintenance de l'usine Jeff Pataki, l'usine d'Engalema a une capacité installée de 86 000 m³. Son extension permettra l'augmentation de la capacité de production à 120 000 m³. L'usine pourra desservir en eau potable les communes d'Engalema, Kitambo, Bandalungwa, Gombe, Kinshasa et Lingwala.
Et au Katanga, certains déclarants douanes de Kasumbalesa dénoncent les tracasseries dont ils se disent être victimes de la part de l'agence Pacific Trading, qui travaille en collaboration avec la DGDA au niveau du guichet unique situé à Whisky, environ 700 km de Lubumbashi.
Selon eux, Pacific Trading fait payer même le camion qui ne stationne pas dans la concession du guichet unique à raison de $30 par jour et par camion. Contactez le responsable de Pacific Trading pour jeter des accusations. Selon lui, il s'agit de certains déclarants en douane qui ne veulent tout simplement pas payer les taxes en faisant traîner leur véhicule sur la voie publique. Objectif, échapper au paiement de la taxe. Il ajoute aussi que le guichet unique de Whisky n'a jamais été débordé par des véhicules et toutes les formalités s'y déroulent sans problème.
Et cette dernière information, du moins pour cette rubrique, les reculs du rythme de formation des prix, stabilité du franc congolais, sont les quelques éléments du cadre macroéconomique observé par le comité de politique monétaire de la Banque centrale qui s'est réuni mardi dernier.
Selon le CPM, malgré ces ralentissements, le taux d'inflation se situe à ce jour encore à 27,27% contre un objectif de 18,35%. La cible d'inflation est donc dépassée pour des raisons exogènes, notamment le prix du baril du pétrole en international. En outre, le niveau des réserves internationales de la Banque centrale est actuellement d'environ 1 300 000 dollars, un niveau estimé confortable, représentant près de 8 semaines d'importation. Le comité des politiques monétaires a toutefois recommandé au gouvernement de respecter les prévisions budgétaires en devise.
Et voilà quelques nouvelles en bref. Politique monétaire, amélioration des certes en eau potable, très tracasserie des opérateurs économiques. Monsieur Fouman, est-ce que vous avez un commentaire?
Oui, j'ai un commentaire sur chacun de ces points, mais il y a quelque chose qui me fait mal à l'aise. Franchement, ça me met mal à l'aise quand on parle de la stabilité du franc congolais. Ça me met vraiment mal à l'aise dans un pays où nous savons que plus de 90% de notre espace monétaire est occupé par des devises étrangères. Et qu'on parle d'une monnaie nationale qui, en réalité, n'existe même pas dans la poche de ceux qui sont supposés la protéger le plus. Si vous fouillez les poches du gouvernement de la Banque centrale, je suis convaincu à 99,81% que vous ne trouverez pas un seul billet de franc congolais dans sa poche. Il parle quand même de la stabilité du franc congolais. Ça, c'est un sujet des Congolais en même temps. Vous avez dollarisé à excès l'économie nationale à travers une réglementation des finances tout à fait stupide. Et vous parlez aux gens de la stabilité du franc congolais. Vous parlez déjà de l'indice des prix, de la maîtrise de l'inflation pour une monnaie qui n'assume pas la fonction d'unité de compte, qui n'est pas l'étalon de valeur. Vous savez très bien que l'étalon de valeur dans ce pays, c'est le dollar américain. Vous parlez quand même aux gens de la stabilité du prix, comme si les prix étaient libérés en francs congolais. Alors que nous savons que le franc congolais est une monnaie de substitution, seulement à des endroits où le dollar ne peut pas circuler.
C'est-à-dire que toutes ces analyses du CPM ne tiennent pas au vu de l'économie dollarisée à outrance.
Je ne sais même pas pourquoi on peut appeler ça comité de politique monétaire, même qu'il n'y aurait pas de politique monétaire. Nous aurions une politique monétaire. La première chose qu'on devrait avoir, c'est avoir une monnaie nationale, liquide, stable, convertible. Le franc congolais est convertible dans quel pays? Ou est accepté dans quel pays? Une monnaie totalement inconvertible. Il n'est même pas connu. Il ne figure même pas sur le répertoire de monnaie nationale à travers le monde. Traversons Brazzaville. Ici, à côté, à 5 minutes de Kinshasa. C'est-à-dire à 5 minutes de la Banque centrale du Congo qui émet la monnaie, le franc congolais. Et vous rentrez dans le marché de Congo-Brazzaville et demandez son passé de franc congolais. On va vous demander ce que ça veut dire. Si c'est quel papier, ça signifie quoi? Mais ça, ce sont des choses dont je crois que nous devions être sérieux dans un pays comme le Congo qui veut se développer en abordant des questions sérieuses qui peuvent faire avancer le pays et la nation. Au lieu de revenir sur ce théâtre, sur des institutions simulacres qui parlent de choses qu'elles ne comprennent pas, qui parlent du franc congolais, parce qu'il y a des franges importantes de la population qui ne connaissent même pas ce que c'est que la circulation du billet de banque. Vous avez parlé de l'acte. Ça fait 200 mois d'impayement. La vraie raison, c'est quoi? C'est que la production de la monnaie n'existait pas. La MIBA, aujourd'hui, elle est tombée en difficulté en commençant non pas seulement par les affaires de Singapour, mais la MIBA, rien que le paiement de ses agents, par nationalisme, je me souviens, en 2000 ou en 2001, je crois en 2000, les étrangers de la MIBA demandaient à la Banque centrale du Congo de leur donner des liquidités en francs, en monnaie nationale, en francs congolais. Une année et demie après la réforme monétaire, la MIBA demandait des francs congolais pour payer les salaires de ses agents. La MIBA, à ce moment-là, avait dans son compte à la Banque centrale l'équivalent de 5 millions de dollars. Et la Banque centrale du Congo était incapable de donner l'équivalent du salaire mensuel des agents de la MIBA en monnaie nationale. Mais une Banque centrale qui est incapable de produire la monnaie nationale va quand même vous dire que la monnaie est stable pendant qu'elle ne la produit même pas. Dans quel pays vous avez vu une monnaie qui n'a pas son unité?
Mais qu'est-ce que là donc ce qu'il faudrait faire? Commencer par redonner de la valeur au franc congolais?
Commencer par être sérieux lorsqu'on parle d'une monnaie. Commencez par être sérieux lorsqu'on parle d'une institution comme une banque centrale. C'est pas n'importe quoi. La banque centrale, c'est un temple, c'est un lieu presque excusez-moi mystique. C'est un lieu stratégique pour une nation. On ne peut pas y mettre des démons. Ça ne doit pas être un pandémonium. C'est pas n'importe quoi. On prend tous les diables, on les met dedans. Et on dit qu'on a une monnaie qui n'en est pas une. Ça sera une catastrophe déjà pour un pays. Moi, je pense que si nous ne repensons pas sérieusement cette question de la monnaie et de la Banque centrale du Congo, nous sommes partis pour la voir et tous les discours politiques que nous entendons tous les jours, c'est juste pour nous faire mal à la tête. Et rien que ça.
Mais bon, disons, il y a aussi l'actualité qui concerne la régie des eaux qui est en train d'étendre son réseau en réhabilitant une usine de traitement d'eau. Voilà quand même une bonne action du gouvernement.
Nous avons absolument besoin d'une eau potable, une eau saine. Et c'est bon si nous pouvons l'avoir. Mais si nous ne pouvons l'avoir que par la mendicité, par la main tendue à l'extérieur, c'est une catastrophe. Je pense que la régie des eaux a besoin, à mon humble avis, d'être en face d'une institution nationale capable de lui prêter de l'argent en monnaie nationale pour qu'elle investisse en monnaie nationale et que tous les gens de ce pays, y compris dans mon village natal, puissent bénéficier de l'eau potable. Nous en avons besoin. Si aujourd'hui la régie des eaux est condamnée à la mendicité pour attendre que les Japonais viennent rester presque pour simplement purifier une eau que nous devons prendre, c'est une catastrophe. C'est ça le vrai problème de la politique monétaire. Voilà pourquoi j'ai commencé par là. Parce que si nous avons aujourd'hui des institutions financières qui permettent à nos entreprises d'accéder au crédit pour financer leurs activités respectives, on ne parlera même plus de la privatisation de la régie des eaux et autres. Ce n'est pas la privatisation qui est la solution. Posez-vous la question de savoir d'où vient le problème de la régie des eaux. C'est un problème strictement financier. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent parce qu'il n'y a personne qui est disposé à leur prêter cet argent. Dans tous les pays du monde, tout le monde recourt au crédit bancaire. Pourquoi on refuse à ce pays de disposer des institutions financières, bancaires et d'avoir une politique monétaire? Pourquoi? Est-ce qu'on a un complot contre un Congo qui est créé par Dieu pour être la référence de la recherche à travers le monde?
Donc l'accès au crédit bancaire serait une des voies pour sauver certaines entreprises publiques en faillite?
Ce n'est pas une des voies, c'est la voie obligée. la première solution qu'il faut envisager avant de jeter les entreprises publiques en pâture au nom d'une certaine privatisation. Nous sommes un pays où la privatisation ne devrait pas être considérée comme une panacée parce que nous avons des entreprises privées. Regardez le secteur pétrolier, l'État n'est pas dedans. Les pétroliers producteurs qui sont en moindre ici ailleurs, l'État est-il capable de les contrôler? L'État sait-il exactement combien ces pétroliers produisent par jour, un nombre de barils?
Donc, pour vous, le processus de transformation de certaines entreprises n'est pas une bonne idée?
C'est une trahison. Permettez-moi de terminer avec un exemple pétrolier. Est-ce que vous acceptez qu'un pays comme le Congo, qui est dans la vallée de l'Afrique, c'est-à-dire qui est capable d'attirer sur lui même des réserves pétrolières des pays voisins. Ils viennent chez nous parce que nous sommes dans une sorte de fossé. Vous acceptez que ce pays ne produise que 23 000 barils par jour, pendant que les pays voisins sont à 2 millions de barils par jour?
Alors qu'on partage la même nappe.
Alors qu'on partage la même nappe, mais nous sommes le fond de cul de tous ces pays-là. Donc tout leur pétrole est chez nous, donc logiquement. Et nous pouvons produire que 23 000 barils avec un consortium de 5 producteurs. Pendant que les petits pays qui ont commencé justement à appeler petits, parce que les petits pays plus jeunes dans le secteur pétrolier, ont commencé première expérience 700 000 barils par jour, le cas du Tchad. Vous avez la Libye, là, combien de barils par jour? L'Angola, à côté de là, combien de barils par jour? On a 23 000 barils par jour. Est-ce que ça, c'est vrai? Un État qui n'est même pas capable de contrôler la statistique de production du pétrole, le vieux secteur qui a été privatisé depuis 1960 et quelques. Aujourd'hui, il va dire on va privatiser la régie des eaux, on va privatiser la fin, on va privatiser les autres. Mais soyez d'abord capable de contrôler le premier secteur, c'est le pétrolier.
Panorama économique, matière première.
Dans la rubrique matière première, nous parlons de l'usine de transformation de latex DVA qui, depuis fin mars dernier, a repris ses activités au sein de l'Institut national d'études et de recherches agronomiques INERA Yangambi.
Selon le ministre provincial de l'Agriculture qui a effectué une visite le samedi dernier dans ce site, l'entreprise indienne correct son partenariat avec INERA Yangambi et soit 1300 hectares de VA à Yangambi et à Tolao, deux collectivités du territoire du Sangui, d'où elle extrait le latex avant sa transformation en caoutchouc. La production effective a commencé au mois de mai et depuis, l'entreprise a déjà réalisé plus de 21 000 kilos de caoutchouc. Notons que le caoutchouc sert à la fabrication notamment des pneus, des chambres à air et des babouches, selon le ministre provincial de l'Agriculture. Et d'ajouter que la production réalisée sera dans un premier temps exportée par l'investisseur vers le pays qui lui ont passé la commande.
Voilà, ce caoutchouc, une matière première dont nous avons la capacité de production. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire?
Ça me rappelle que la convoitise mondiale s'était abattue fortement comme une catastrophe sur le Congo à cause du caoutchouc dans les années 1800, etc. Où nous avons connu le premier boom du caoutchouc. Malheureusement, nous n'avons jamais utilisé possible de ce produit que le monde entier a connu comme un produit très stratégique, un produit qui a favorisé l'expansion du commerce mondial et même le développement des nations. Nous avons toujours intact nos capacités de production du caoutchouc comme de tant d'autres produits agricoles, mais il nous faut organiser l'État. Il faut engager les regards de l'État vers ce secteur de produits végétaux, produits agricoles et végétaux, parce que le sol que Dieu nous a donné gratuitement est un sol énormément fertile. Et comme disait le président Sarkozy un jour quand il est venu visiter le Congo pour la première fois, je reprends sa phrase, je ne connais pas la seule plante qui ne peut pas pousser dans ce pays, le Congo, si on injecte un grain sur la terre congolaise, sans appeler forcément des engrais et des technologies sophistiquées. Mais simplement, il faut un État responsable, un État moteur, capable d'impulser l'activité économique en rassurant et en sécurisant les privés.
Panorama économique, réponse.
La République démocratique du Congo a la capacité de produire près de 2 millions de tonnes de vivres chaque saison sur une surface de 300 000 hectares cultivés, et cela grâce à la technique de gestion intégrée de la fertilité du sol appelée GIFS. C'est ce qui ressort de la télé de deux jours en qualité de Kinshasa par le projet Catalyst de la coopération néerlandaise en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo. David Kalinda, notre reporter, y a assisté et il nous propose ce reportage.
Ils sont venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, de l'ingénieur agronome en passant par le médecin vétérinaire jusqu'aux représentants des organisations paysannes. Chacun avec un échantillon de ses produits à présenter au public dans les stands érigés dans la cour du siège de la FED. Entre salle de conférence et pause café, les visiteurs y découvrent du piment pasteurisé, jus d'oseille et de mangue pour la petite industrie agroalimentaire, produits phytosanitaires et vétérinaires pour la lutte et la prévention dans le domaine agro-vétérinaire. Ils ont échangé pendant 2 jours, du 28 au 29 juin, autour de la question « La sécurité alimentaire congolaise est-elle nécessaire et possible ?» Tout est parti du contraste selon lequel la République démocratique du Congo importe chaque année plus de 2 millions de tonnes de vivres et ses importations coûtent plus d'un milliard de dollars américains à l'État congolais. L'objectif final étant de partager avec les acteurs du secteur agroalimentaire sur la GIS qui permet d'augmenter le rendement sans toutefois épuiser le sol de ses éléments nutritifs. Écoutons l'ingénieur Samson Firouza, qui est coordonnateur national du projet Catalyse.
La sécurité alimentaire pour les Congos, elle est plus qu'urgente aujourd'hui, parce que ce ne sont pas les thèmes qui nous manquent au Congo. Je suis parti d'une telle chose que vous connaissez, c'est les riz. C'est-à-dire qu'en une seule saison, si on décide de faire les riz, une idée très compliquée, vous avez seulement besoin de 300 000 hectares pour produire les 10 millions de tonnes.
En quoi consiste cette nouvelle technique de la gestion intégrée de la fertilité du sol, dit GIS? Quelle est sa particularité par rapport aux autres techniques telles que la fertilisation par des engrais chimiques ou organiques? Sandra Kavira, ingénieur agronome au projet Catalyse, explique ici les résultats de terrain enregistrés dans les deux types.
C'est le mélange d'engrais organiques et inorganique, notamment l'engrais chimique et le fumier. Nous avions commencé avec 60 producteurs avec des chefs de démonstration. Et la première saison, ils avaient quitté 2 tonnes à l'hectare pour atteindre 6 tonnes pour la culture du riz dans la plaine de Katenga et jusqu'à Beni. Cette progression continue jusqu'aujourd'hui parce qu'à quitter les 2 tonnes jusqu'à 6 tonnes, 4 saisons après, ils ont atteint 9 tonnes.
Le secrétaire général à l'agriculture, Hubert Ali Ramadani, souligne qu'il était important de faire connaître la GIS aux autres producteurs agricoles parce que cette technique apporte quelques solutions aux difficultés identifiées dans ce secteur.
Parmi les contraintes qu'on a pu retenir, ce sont les facteurs de production, comme les engrais, comme les semences. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la gestion intégrée de la fertilité des sols, l'expérience qui se fait déjà dans le nord et le sud Kivu, et on doit le partager aussi avec le frère et les sœurs qui sont venus d'autres provinces.
Rappelons que le projet Catalyse concerne 3 pays de la région des Grands Lacs, notamment le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo.
Monsieur Somoni, je vous ai vu secouer la tête, vous semblez émerveillé ou je ne sais pas subjugué. La RDC a la terre, elle a les techniques, elle a les ressources humaines, qu'est-ce qui manque?
Qui pousse la production du riz jusqu'à 9 tonnes à l'hectare, ça c'est un record historique qu'on ne peut pas envisager ni en Chine ni en Thaïlande. Et pourtant, la RDC a exactement la même étendue de terres arables que la Chine. Mais la Chine, avec 620-132 millions d'hectares de terres, à peu près, à peu près du tout de la RDC, nourrit 1,3 milliard d'habitants. Mais la RDC, avec les mêmes 132 millions d'hectares de terres arables, n'est pas capable de nourrir sa population.
Elle importe
2 millions de tonnes
de vivres chaque année.
C'est une catastrophe. Mais pourquoi ça ne se fait pas au Congo? À cause de l'absence de la politique de crédit. Pourquoi? À cause des coûts de transaction. Les coûts de transaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire les coûts qui sont liés à l'inutilisation, à l'absence de la monnaie. Parce que la monnaie est le seul facteur d'organisation des marchés, et donc d'organisation de la production au niveau de son efficacité. Aujourd'hui, les opérateurs économiques sont abandonnés à eux-mêmes. Ils travaillent de petites étendues de terre juste pour la survivance. Alors que nous savons que ces millions, ces centaines de millions d'hectares de terre restent abandonnés au chômage. Parce que aucune banque au Congo n'est prête à financer l'agriculture de façon sérieuse, de façon responsable. On a même dû créer une banque de crédit agricole pour essayer de relancer l'agriculture. Au moment où tout le monde disait l'agriculture priorité des priorités, ça c'est un slogan depuis 1970 jusqu'aujourd'hui, on a eu la même chose. Mais on ne veut pas réformer ce qui s'appelle, encore une fois, la politique monétaire pour éliminer combiner ces facteurs des coûts de transaction, ces différents gros étranglements, afin de booster la production agricole, de booster le marché des produits agricoles, des produits liés à l'intérieur de notre pays. Aujourd'hui, ne constitue un produit à terme économique du mot que le produit qui sert à l'exportation. Quand on parle de l'économie congolaise, on voit le cuivre, le cobalt, le diamant qu'aucun Congolais ne consomme. Le foufou qui est consommé au Congo ne fait pas l'objet d'un marché
sérieux. Le maïs.
Voilà. Ça fait pas partie du marché organisé à l'intérieur du pays. L'organisation du marché suppose deux choses. Première chose, une unité monétaire qui sert en même temps au financement d'activités. Une deuxième chose, le système de paiement qui doit être mis en place pour faciliter la circulation des transactions et les échanges des produits, la circulation des produits d'un consommateur à un producteur ou d'un producteur à un autre.
Ainsi prend fin le panorama économique de cette semaine. Merci à Michel Soumoué qui a accepté gentiment de venir commenter avec nous l'actualité économique.
Merci
Nadine Foula. Retrouvez ce panorama économique sur le site www.radiocapi.net. Écho d'économie, ce sera aussi lundi, 18h15, heure de Kinshasa. Et d'ici là, chers auditeurs, passez un bon week-end.